Actualité comme tous les vendredis, actualité de la recherche en histoire, actualité des fictions d'histoire. Dans un instant, Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, viendra nous présenter le programme qu'il a préparé pour 3 jours de débats, de discussions, 3 jours autour de l'histoire à Nantes, au lieu qui s'appelle le Grand T, mais également au château des Ducs de Bretagne et qui s'intitule Nous autres. Puis Amélie Meffre, dans sa chronique mensuelle Un saut dans la loi, nous parlera ce matin du décret du 11 mai 1794 qui institue le secours aux pauvres. Puis dans la seconde partie de cette émission de vendredi, nous vous proposons un entretien avec le romancier espagnol, membre de l'Académie royale espagnole, et ça a son importance, Arturo Pérez Reverte, qui dans son dernier roman, Deux hommes de bien, s'intéresse à l'aventure de deux académiciens du XVIIIe siècle qui vont contre vents et marées tenter de se procurer à Paris, pour leur institution madrilène, un exemplaire de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Mais pour commencer cette émission, eh bien, saluons le prix du Sénat du livre d'histoire qui a été remis hier soir à Pierre-François Souhiri, que nous avions reçu le 1er juillet 2016 pour son livre qui s'intitule « Moderne sans être occidental, aux origines du Japon d'aujourd'hui » dans la collection de la Bibliothèque des Histoires chez Gallimard. Il a donc vaincu dans ce combat de 3 personnes, puisqu'il y avait avec lui Florence Tamagne, le crime du palace, et également Claire Zalk, dénaturalisée, dont donc sur les retraits de nationalité sous Vichy, paru aux éditions du Seuil. Donc c'est Pierre-François Souhiri qui remporte cette année le prix du Sénat du livre d'histoire. Je vous propose d'écouter un extrait de l'entretien qu'il nous donnait le 1er juillet dernier dans la Fabrique de l'Histoire. Tout l'entretien est évidemment disponible sur le site de France Culture.
On a toujours l'impression, nous, vus d'Occident, que les discours occidentalistes, les traductions, donc les ouvrages occidentaux en japonais, ont façonné en quelque sorte la nouvelle idéologie, la nouvelle manière de penser. Or, en fait, je m'étais toujours demandé, mais pourquoi les gens qui ont mis en avant cette pensée occidentale ont toujours été rejetés au Japon? Ils ont toujours été vaincus, d'une certaine façon, dans les batailles institutionnelles qu'il y a pu y avoir un certain nombre d'organismes, dans les ministères, dans les institutions diverses, aux archives nationales, etc. Et je me suis demandé pourquoi, finalement, ils n'avaient jamais réussi vraiment à prendre pied. Et donc j'ai été obligé d'aller plus loin en quelque sorte dans l'analyse, et donc de regarder de très près les textes qui avaient été produits à cette époque, alors qu'ils sont évidemment en japonais du 19e siècle, ils ne sont pas toujours faciles à lire, mais enfin bon, je m'y suis un peu mis.
Donc c'est votre travail d'historien en tout cas.
Voilà, c'est mon travail d'historien, et du coup j'ai découvert des choses, des figures en quelque sorte très différentes de celles auxquelles on pouvait s'attendre. Et en particulier, ce mouvement pour la liberté et droit du peuple, qui est un mouvement absolument essentiel dans le Japon des années 1880, qui vient relayer en quelque sorte au niveau des couches moyennes le programme de modernisation mis en place par l'État japonais après la restauration impériale de 1868, ce mouvement donc pour la liberté et droit du peuple, est essentiellement un mouvement populaire de classe moyenne, de paysans riches et de gens vivant dans les nouvelles couches sociales qui émergent dans la société urbaine. Mais ces gens-là ont été fondamentalement formés dans le système qui précède, c'est-à-dire le système des Tokugawa. Et donc, toute leur catégorie mentale tourne autour de ces questions-là. Et donc, on invente en quelque sorte de nouvelles pratiques sociales en les légitimant avec évidemment les bagages intellectuels qu'on a à disposition. Donc ça donne ces espèces de choses tout à fait étonnantes, où on voit effectivement le débat sur que nous on traduit dans nos catégories, le débat sur la constitution, sur des élections libres. Eux, ils appellent ça, en fait, de leur point de vue, le maintien de l'harmonie. C'est la voie royale, c'est l'égalité de tous devant le ciel. Et donc on s'aperçoit que finalement le confucianisme, par exemple, peut-être le discours du conservatisme le plus profond, ou au contraire, un discours qui finalement mène à des pratiques démocratiques ou les justifie.
Alors, si on repart au tout début de cette période, au moment justement où arrivent avec fracas les armées occidentales dans cet espace géographique, comment cet électrochoc de l'arrivée des Occidentaux se traduit-elle d'abord au niveau du pouvoir central, mais peut-être aussi dans la société japonaise elle-même? Il y a une sorte d'effet de stupéfaction comme celui que l'on a pu connaître du côté de l'Égypte avec l'arrivée de Bonaparte. Est-ce qui a cette idée comme ça d'entrer par fracas et donc de la volonté de rattraper, entre guillemets, ce que d'autres, dans d'autres espaces géographiques, ont appelé du retard, Pierre-François Souhiri.
À vrai dire, les Japonais, enfin ceux qui sont évidemment les mieux informés à l'époque, sont au courant de ce qui s'est passé en Chine une dizaine d'années auparavant, ce qu'on appelle ici la guerre de l'opium. C'est-à-dire que les armées chinoises ont été vaincues par les Britanniques et les Britanniques ont imposé donc des traités dits inégaux. Les Japonais savent qu'ils sont les prochains sur la liste, en tout cas ils s'en doutent. Mmh. Et quand les Américains arrivent, ils pensaient que ce seraient les Britanniques qui arriveraient, mais finalement ce sont les Américains qui arrivent avec une armada militaire. Là, effectivement, il y a un peu un effet de stupéfaction, mais en même temps, ils s'y étaient un petit peu préparés. Mmh. Et donc, ils essaient de procrastiner, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils remettent à demain ce qu'ils auraient pu décider aujourd'hui, de façon, en quelque sorte, à gagner du temps. Et cette procrastination, en quelque sorte, des autorités shogunales apparaît comme un aveu de faiblesse à de nombreux samouraïs, ou en tout cas de gens qui réfléchissent. Et d'une certaine façon, par exemple, les autorités shogunales demandent à l'ensemble des daimyos, c'est-à-dire des grands seigneurs, leur avis sur ce qu'on doit faire vis-à-vis des occidentaux. Avec deux questions. La première, c'est faut-il négocier avec eux ? Mm-hmm. Ou deuxièmement, faut-il leur faire la guerre ? La moitié des daimyos répondent j'en sais rien. Et les deux camps, à peu près, les deux autres camps se partagent à peu près, donc un quart pour la guerre, un quart pour la négociation, et 50% qui disent « je n'en sais rien ». Mais ça déclenche un débat, et ce débat est vécu, on est quand même dans une société féodale, comme un aveu de faiblesse de la part des autorités centrales. Mais débat, il y a, et c'est ça qui est intéressant, c'était qu'à partir de ce moment-là, un certain nombre de guerriers, de samouraïs, donc vont rompre leurs attaches féodales, et développer un discours qui est anti-occidental,
pensé par eux-mêmes d'une certaine façon, enfin pensé en dehors du cadre qui était prévu pour eux.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils pensent que l'un des problèmes de la société d'alors, c'est le maintien de statuts sociaux rigides qui ne fait pas place aux véritables talents. Et eux pensent qu'ils ont du talent. Et ils en ont souvent d'ailleurs. Mm-hmm. Et donc à partir de ce moment-là, il y a une sorte de réflexion révolutionnaire. Qui remet en question l'ordre de l'ancien régime, l'ordre féodal, et qui va déboucher sur la volonté de mettre en place un État unifié. Alors, on dit maintenant un État-nation, mais eux ne disaient pas ça. Ils disaient simplement il faut réunifier le pays. Parce que le pays était divisé, évidemment, en fiefs seigneuriaux, en principautés qui étaient quasi autonomes. Donc l'idée, c'est de reconstituer un État fort, en fait.
Voilà donc un extrait de cet entretien que nous avait donné le 1er juillet 2016, Pierre-François Souhiri, qui vient de remporter donc hier la 15e édition du prix du Sénat du livre d'histoire pour Moderne sans être occidental aux origines du Japon d'aujourd'hui, publié chez Gallimard. Vous pouvez bien évidemment aller sur le site internet de France Culture pour entendre l'entièreté de cet entretien. Et puis, puisque nous avions reçu Florence Tamagne, qui est donc également dans le trio de tête de ce prix pour le crime du palace, nous recevrons d'ici la fin de cette saison Claire Zalk pour dénaturaliser les retraits de nationalité sous Vichy. Bonjour Patrick Boucheron.
Bonjour.
Alors vous êtes avec nous aujourd'hui pour évoquer une manifestation dont vous êtes l'organisateur, le commissaire scientifique, qui se tient à Nantes à partir de tout à l'heure, donc cet après-midi. Ça s'appelle Nous Autres, c'est la deuxième édition de cette manifestation. Et je pensais être original en me disant, tiens, je vais lui poser des questions sur pourquoi un historien monte sur les planches. Et je m'aperçois, vous me l'avez montré, que dans Libération de ce matin, il y a un article qui s'appelle Boucheron, star des planches. Donc je ne suis pas original.
Ça parle du surf, en fait. C'est un peu différent.
Exactement. Et donc en l'occurrence... c'est vrai qu'on peut être surpris qu'un professeur au Collège de France soit associé au Théâtre de la Colline, que vous l'êtes à Paris. On a appris cette semaine que vous étiez également associé la saison prochaine au Théâtre National de Bretagne pour une série de conférences et de débats. Et vous organisez donc également à Nantes ce week-end cette manifestation Nous Autres avec d'autres historiennes et historiens. Vous étiez il y a peu de temps sur les planches du Théâtre Garonne à Toulouse. Pourquoi le théâtre ?
Parce que je pense, mais je suis pas seul justement, nous sommes nombreux, je l'espère, à penser que les historiennes et les historiens doivent déborder l'arène ordinaire de leur intervention, l'excéder, la transgresser même, pourquoi pas. Et le théâtre est un des lieux de ce débord où l'histoire peut s'indiscipliner, mais pas pour se perdre, pas pour se risquer dans un mélange dangereux pour son régime de vérité, au contraire. tout au contraire. Parce que, au fond, c'est quoi l'histoire? C'est un, on va dire, un art de l'adresse. Et l'adresse a des vies là où elles sont, des corps parlants qui sont assemblés. Et c'est aussi un art du point de vue, de l'agilité du point de vue. Donc, d'une certaine manière, la scène est le lieu de l'expérimentation de l'opération historique. Il ne s'agit pas de faire du théâtre d'histoire. C'est tout sauf théâtral et pompeux, en somme. On ne va pas se mettre en toge. Il ne s'agit pas non plus d'être conseiller historique de spectacle d'histoire. Mais simplement...
Il s'agit de rester historien, mais dans un autre cadre que celui qui est le cadre habituel de l'universitaire.
Ah, ça, par principe, oui. Non seulement rester historien, mais travailler à continuer à le devenir, parce que c'est pas parce que on a fait des études d'histoire qu'on est forcément encore historien. Et donc il faut tenter, il faut expérimenter. Et là, on a beaucoup de chance parce que à Nantes, ça fait un an et demi qu'on travaille avec Christelle Galdet du musée d'histoire, avec Catherine Blondeau du Grand T, à une manifestation qui est quand même ambitieuse.
Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir voir si on se rend donc à partir de cet après-midi, soit au Grand T, qui est un théâtre de Nantes, soit au château des Ducs de Bretagne? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir? Des historiens dans quelle posture, d'une certaine façon, Patrick Boucheron?
Parfois dans la posture ordinaire de celui qui fait une conférence, parce qu'il n'y a pas de raison non plus de ne pas investir cette forme d'expression. Parfois dans des formes plus ludiques, Yann Lignereux va, figurez-vous qu'il va tatouer les spectateurs. Mais alors je vous rassure, de manière non pérenne à l'aérographe, parce que ça sera une manière de leur mettre sur la peau ce que dans la Nouvelle-France qu'il étudie actuellement au XVIIe siècle, justement les tatouages rituels des Amérindiens, etc. Bon, voilà, c'est une façon traiter le sujet, nous autres, nous sommes les autres des autres. Et puis il y aura d'autres formes plus ludiques, des conférences en forme de jeu, et puis il y aura aussi du théâtre, et puis il y aura de la chorégraphie, c'est-à-dire qu'on va tenter d'une certaine manière
de transcrire
également de donner à voir notre inquiétude. Ça peut paraître ludique, comme ça va commencer sur une note plus grave ce soir, avec l'adaptation théâtrale d'un texte que j'avais écrit avec Mathieu Riboulet qui s'appelle « Prendre date ». C'est dire quand même avec...
Qui était donc un texte après les attentats de Charlie.
Après les attentats de Charlie et de l'hypercachère, et c'était... C'est une manière de dire que on ne cherche pas à être désinvolte avec l'histoire, mais que justement parce que l'heure est grave, ce ne serait pas sérieux de ne pas jouer un peu, et en particulier de ne pas déjouer les effets notamment d'autorité qui risquent de nous mettre en mauvaise posture pour défendre justement la vérité du fait historique. C'est pour ça que, par exemple, tout est autour. Alors, il faut dire que nous avons un invité d'honneur qui est Tim Brook.
Timothy Brook, ceux qui ne le connaissent pas l'entendront dans la fabrique d'ici une quinzaine de jours. Nous profitons de son passage justement à l'occasion de sa venue à Nantes pour pouvoir l'enregistrer pour une séquence de l'histoire mondiale. Timothy Brook qui nous a appris d'une certaine façon à faire aussi une autre manière d'histoire mondiale, puisqu'il avait dans le chapeau de Vermeer, mais également dans la carte perdue de John Selden, évoquer la façon dont le fracas des rapports dont parlait tout à l'heure Pierre-François Souhéry entre les Occidentaux et les autres avait profondément transformé la vision du monde des Occidentaux, dans en particulier le chapeau de Vermeer.
Et qu'on pouvait raconter tout ça à partir d'un objet qui est là, qui est posé là, et que ainsi on dessert une tenaille. Alors une tenaille historiographique qui montre qu'on peut faire une histoire globale du local. Nous serons à Nantes et nous allons parler de l'histoire de Nantes. Et comme nous ne sommes pas Nantais, les Nantais eux-mêmes au musée vont. Il y a un atelier autour des objets de l'histoire de Nantes qui ont été invités depuis plusieurs semaines à raconter des histoires, leur histoire autour des objets de leur ville. Et bien, d'une certaine manière, s'emparent de ce local, mais qui, comme évidemment, alors on est à Nantes, donc ça ouvre vers l'histoire atlantique, et donc ça veut dire qu'avec n'importe quel objet, on peut raconter l'histoire du monde. Et la chance formidable que nous avons de pouvoir entendre Tim Brook, qui, avec le chapeau de Vermeer, nous a délivré d'abord une leçon d'écriture de l'histoire, et aussi peut-être une leçon politique, qui est que au fond, il y a une autre tenaille qui nous en sert, c'est celle qui nous somme de choisir entre voulons-nous être des enracinés ou des cosmopolites. Mais justement, non, ni l'un ni l'autre. Précisément, nous pouvons dire qu'il y a une dignité propre du lieu et que l'histoire dit ça a eu lieu. D'où des jeux autour de l'objet monde, qui est au fond ce que nous inspire l'œuvre de Tim Brooke.
Vous voulez dire que il faut être à la fois ou en même temps cosmopolite et enraciné, c'est ça? Comme notre président aime beaucoup cette formule, c'est ce que vous voulez dire, Patrick Boucheron?
Mais en tout cas, je pense à Machiavel. Machiavel, la première.
Machiavel, vous publiez donc chez Équateur les chroniques que vous avez tenues l'année dernière, donc sur France Inter, sous le titre d'Un été avec Machiavel, effectivement.
Oui, et où j'avais tenté de rappeler que derrière le machiavélisme, il y avait quelqu'un qui s'appelait Machiavel, qui était aussi un écrivain et qui avait d'ailleurs beaucoup fait de théâtre et qui, dans le théâtre, tentait de mettre justement à l'épreuve sa conception du politique. La première parole publique de Machiavel aux gouvernants, il a 29 ans, il leur dit sortez de chez vous. Sortez de chez vous et allez regarder, mais de l'extérieur, là où vous êtes. Mais pas pour parcourir le monde, pour revenir où vous êtes, mais vous allez y revenir altéré. C'est-à-dire, vous allez devenir autre de vous-même. C'est ça que ça veut dire, nous autres. Bon. Et donc, de ce point de vue-là, on est dans une situation, ben justement, qui est la situation théâtrale, qui consiste à se rassembler pour faire lieu, pour être ensemble quelque part, mais justement pour faire un peu respirer ce lieu.
Et on sent tout de même, quand on vous suit un peu, Patrick Boucheron, que vous êtes assez adepte de cette variétas que met justement Machiavel au cœur de son propre travail, cette variété, ce divers, donc cette volonté de ne pas se laisser enfermer dans un seul mode d'écriture, dans une seule façon de parler, dans une seule façon de s'adresser aux autres, soit par le livre, soit par la scène, soit par d'autres moyens.
Oui, il faut avoir, comme on dit banalement, plusieurs cordes à son arc, mais justement l'art de s'adresser aux autres. Machiavel le comparait à l'art de l'archer, qui
il
doit
faut viser plus haut pour pouvoir atteindre
Il faut viser plus haut pour atteindre la cible. Ça, c'est quand même quelque chose que n'importe qui travaille en radio, en journalisme, en édition ou au théâtre doit toujours avoir à l'esprit. Donc, c'est une manière, au fond, de nous rehausser, de ne pas se laisser enfermer dans nos routines, dans nos habitudes, de se mettre un peu en danger, c'est beaucoup dire, mais enfin, en tout cas...
Oui, c'est un danger tout de même relativement limité.
C'est très relatif. Mais voilà, à partir du moment où on a... Bah, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Je cause, c'est tout ce que je sais faire. Donc, inévitablement, si je fais pas attention, je vais commencer à dire la même chose. Une des façons déjouer cette routine, c'est de travailler d'abord, trouver d'autres sujets, mais aussi trouver d'autres formes.
Écrire une chose utile, comme le rappelle Machiavel, le maître des enchanteurs, dans ce livre sur un été avec Machiavel, à qui l'entend.
Voilà.
Et donc, l'entend qui veut, d'une certaine
l'entend
façon.
L'entend qui veut, parce que à partir du moment où on dit l'histoire doit être engagée au fond, en tant qu'elle s'engage dans un travail collectif qui s'adresse à ceux qui, à l'endroit où ils sont, au moment où ils veulent bien le recevoir, il y a là quelque chose d'un échange qui n'est pas véhément, qui ne proclame et ne prescrit rien, mais qui est aussi un art de la description. Au fond, ce qu'on cherche à faire collectivement, c'est un état des lieux ressemblant à l'endroit et le moment où nous sommes. Et
y compris un état des lieux d'un état d'urgence.
Oui, parce que encore une fois, toute cette énergie qui peut sembler joueuse, elle est quand même mue par l'idée que ça se décide maintenant. Et en particulier sur ces questions si cruciales, c'est le cas de le dire, de l'identité et de la manière dont nous allons construire un nous qui ne tient pas les autres pour rien, comme le dit Achille Mbembe, ça se décide maintenant, en France et pas qu'en France, en Europe et pas qu'en Europe. Il y a là, au fond, une nécessité un peu ardente, un peu intense, un peu urgente, de dire quelque chose. Et au fond, au-delà des beaux principes et de la générosité ordinaire des acteurs de la culture. C'est pas ça. Il faut essayer de mettre tout ça à l'épreuve.
Donc, ça sera à partir de cet après-midi, donc à Nantes, nous autres, cette manifestation se tiendra à la fois au Grand T, le théâtre, mais également au château des Ducs de Bretagne. Renseignez-vous pour pouvoir aller sur les sites qui vous permettront de savoir chacune des manifestations qui s'y trouvent. Et si votre emploi du temps à Nantes, Patrick Boucheron, vous en laisse le temps, j'en doute. Rendez-vous donc au congrès du 50e anniversaire des germanistes de l'enseignement supérieur, qui se tient justement à Nantes tout le week-end. Sur le thème des machines, vous entendrez parler de Nietzsche, de Paul Celan, de Kant et de son traité de paix perpétuelle, mais également de quelqu'un que vous aimez bien et que vous citez dans ce petit été avec Machiavel que vous publiez aux éditions des Équateurs avec France Inter, Walter Benjamin.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Et les autres, ils peuvent être dans notre propre société, pas simplement ailleurs, alors que plusieurs départements renforcent les contrôles à l'encontre des bénéficiaires du RSA, au point que 45 000 allocataires du Nord risquent de voir leurs revenus rabotés. Vous avez décidé, Amélie Meff, pour votre chronique mensuelle, un saut dans la loi, d'évoquer le décret du 11 mai 1794, un texte qui affirme le droit des pauvres à être secourus.
Oui, et ce n'est pas rien, même si l'avancée est avant tout doctrinale, dans les faits, la parenthèse est courte. En attendant, les révolutionnaires veulent consacrer une obligation d'assistance aux pauvres, présentée comme une dette sacrée. Ils mettent en cause la politique orchestrée par l'ancien régime entre charité et répression. Il faut dire que des siècles durant, les autorités ont multiplié les sanctions contre les mendiants, renforçant leur enfermement dans des hôpitaux généraux, puis dans des dépôts de mendicité. Avant la période révolutionnaire, des critiques se font déjà entendre. Ainsi, Turgot recommandait de ne pas confondre la pauvreté réelle et la mendicité volontaire occasionnée par le libertinage et l'amour de l'oisiveté. La première doit être non seulement secourue mais respectée, la seconde seule peut mériter d'être punie, écrivait-il en 1770. Le contrôleur général des finances de Louis XVI explique l'indigence par des causes économiques, le chômage, et non par le seul comportement individuel. Il va tenter de fermer les dépôts de mendicité pour ouvrir des ateliers de charité où l'on confie des travaux d'intérêt général aux pauvres. Des établissements textiles sont organisés pour les femmes, les enfants et les vieillards, tandis que des chantiers routiers sont ouverts pour les hommes. Alors cette volonté de réformer l'assistance aux pauvres, elle va se poursuivre dans les comités révolutionnaires de l'Assemblée. Le comité de mendicité, instauré en janvier 1790, est présidé par le duc de La Rochefoucauld, puis le comité de secours public et enfin le comité de salut public avec Barrère. L'idée force est de reconnaître une responsabilité de la société à l'égard des pauvres. Parmi les partisans de cette doctrine, citons Dufourny de Villiers qui déclare « Le but principal, la condition nécessaire de la société, a été la protection, la conservation des faibles et des indigents. C'est pour le faible, le pauvre et l'infirme que la société s'est créée. » Comme le rappelle Michel Grenot, le député propose même pendant la préparation des états généraux que soit représenté, en plus du tiers état, un quatrième état, celui des pauvres, des infirmes et des indigents. En vain. Voilà. Il n'empêche que quand même sous l'influence du comité de mendicité, la constitution de 1791 proclame au rang des devoirs les plus sacrés de la nation l'assistance aux pauvres dans tous les âges et dans toutes les circonstances de la vie. Étant entendu que la misère des peuples est un tort des gouvernants, comme le soulignait La Rochefoucauld. Et puisque l'assistance est une dette de la société, c'est à l'État d'y pourvoir. Le comité de mendicité rejette toute forme d'assistance à caractère local ou municipal, accusée d'être inefficace, corrompue et injuste, et promeut un système d'assistance nationale et étatique. L'assistance devient donc en quelque sorte un service public. Voilà pour les principes, et ils sont éminemment modernes, même si le distinguo entre les bons et les mauvais pauvres n'a pas complètement disparu. Maintenant, leur traduction dans les faits est bien limitée.
Il y a quatre lois cadres qui seront votées entre 1793 et 1794, c'est ça Amélie?
Voilà. La première, en fait, définit la nouvelle organisation des secours publics, avec des travaux de secours pour les valides et des secours à domicile pour les invalides. La seconde la précise, en énumérant les pensions à verser aux enfants ou vieillards, et crée les officiers de santé, médecins chargés de soigner gratuitement et à domicile. La troisième vise plus expressément les indigents valides en organisant les travaux de secours et en interdisant l'aumône et la mendicité. Reste la quatrième, celle du 22 Floréal en 2, 11 mai 1794, votée sur le rapport Barrère, qui organise les secours dans les campagnes en créant un grand livre de la bienfaisance nationale. Alors ce livre, eh bien, il doit dénombrer le nombre d'indigents susceptibles d'être secourus. Pour le rapporteur Bertrand Barrère, le despotisme dénombrait les hommes comme de vils troupeaux, la liberté contre les indigents comme des êtres respectables et sacrés. Ce décret, donc, sur l'extinction de la mendicité des campagnes, prévoit l'ouverture dans chaque département d'un recueil où sont inscrits les vieillards et les infirmes des campagnes, les veuves et les mères chargées de famille. Le système de secours prévu est complet, comprenant aide alimentaire et monétaire, secours médicaux à domicile, et il envisage même un système de retraite pour les agriculteurs invalides. Alors, ce texte instaure en fait un droit des pauvres à être secourus. Toute personne inscrite sur le livre a droit à une indemnisation. 160 livres annuels pour un cultivateur vieillard ou infirme, 120 livres pour un artisan vieillard ou infirme, et 60 livres pour une mère ou veuve chargée d'enfants. En outre, la gratuité des soins à domicile est prévue. Le programme d'assistance de Barrère s'est toutefois révélé fort insuffisant, ne s'occupant que des campagnes. Il ne concerne pas plus de 400 cultivateurs par département.
Ah oui, ça fait pas lourd.
Et puis surtout, son financement est dérisoire. Les agences départementales reçoivent des sommes très en deçà de leurs besoins et versées avec retard.
Mais arrive le directoire.
Et avec lui, ben, le souci du maintien de l'ordre va rapidement mettre à mal les grands principes révolutionnaires, en rejetant l'idée d'une assistance assurée entièrement par l'État et en misant sur la charité privée. Les lois votées en 1793 et 1794 sont abrogées. Quoi qu'il en soit, les idées développées par la Convention furent plus que précieuses pour appréhender autrement la pauvreté. Et je voudrais dire que le colloque international organisé en ce moment par Athédée Carmont ne devrait pas manquer de le rappeler.
Et oui, il faut le rappeler. On peut lire notamment aussi sur ce sujet « Le souci des plus pauvres » du Fourni, « La Révolution française et la démocratie » de Michel Grenot, paru en 2014 aux presses universitaires de Rennes. Et vous pouvez consulter le site à compter de lundi des Athédée Carmont sur le site « Les interventions du colloque » justement dont vous venez de parler. Merci et à l'année prochaine en l'occurrence, puisque oui, nous arrivons à la fin de cette saison, Amélie Meffre. Il est 9h35 sur France Culture. Il est maintenant l'heure de retrouver l'entretien que nous avons eu il y a quelques semaines avec à l'occasion de son passage par Paris, avec le romancier Arturo Pérez Reverté à propos de son dernier livre. Arturo Pérez Reverté, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour évoquer votre dernier roman. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes auteur de très nombreux romans, vous êtes espagnol, vous avez été connu au tout début par un livre qui s'appelait Le tableau du maître flamand, c'était en 1993, et vous avez depuis écrit de très nombreux livres, dont une série de Cap et d'Épée, qui met en scène un capitaine qui s'appelle le capitaine Alatriste, qui a d'ailleurs donné lieu à une adaptation à la télévision et je crois même au cinéma en Espagne. Ce travail que vous menez fait de vous un écrivain rare puisque vous vous intéressez constamment à des questions historiques. Et le dernier livre que vous venez de publier s'appelle « Deux hommes de bien ». Il est publié aux éditions du Seuil et il nous raconte une histoire très étrange qui met en scène non seulement des personnages mais aussi des objets. Parce que souvent vous mettez des objets comme étant des personnages de votre histoire. Cet objet, c'est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Comment êtes-vous venu sur cette question que vous vous posez dès le début de ce roman, à savoir pourquoi une encyclopédie de Diderot et d'Alembert a-t-elle atterri à l'Académie royale espagnole ?
J'étais en train de faire un travail à l'Académie espagnole des langues de laquelle je suis membre depuis 15 ans, 14 ans. Et j'ai trouvé là, par hasard, j'ai trouvé que l'encyclopédie était là. J'ai dit, c'est l'encyclopédie, j'ai commencé à la voir, c'était la vraie encyclopédie. J'ai regardé que c'était la première édition. Alors j'ai commencé à investiguer pourquoi, comment elle est arrivée. Et j'ai découvert que l'encyclopédie est arrivée à Madrid, à notre académie, justement quand elle était interdite par l'Inquisition et par les rois en Espagne. Parce que c'est très trop avancé pour l'époque. C'était à l'époque où l'Église était tout puissante et avait interdit la diffusion de l'encyclopédie et la lire. Et alors, j'ai commencé à investiguer comment est-ce qu'elle a pu arriver. Et alors, cette investigation, cette enquête, m'a donné l'idée de raconter comme un roman l'histoire. Et c'est comme ça que Deux-Sons devient est né.
Ce qui est quand même très intéressant, c'est que vous avez un maître. Vous avez plusieurs maîtres, mais un de vos maîtres, c'est Alexandre Dumas.
Ouais.
Et il est toujours présent, plus ou moins, dans vos livres, soit comme héros principal, comme dans le Club Dumas, soit parce que simplement, les histoires que vous racontez sont extrêmement inspirées des romans d'Alexandre Dumas, en particulier des Trois Mousquetaires. Et parce qu'il y a des aventures, parce qu'il y a des rebondissements, parce que vous y racontez des personnages qui ont un but. Et ce but est généralement empêché par d'autres personnages qui ont un but exactement contraire. C'est exactement ce que vous racontez dans Deux Hommes de Bien, Arturo Pérez-Reverté.
Oui, et surtout, il y a une chose que j'ai appris à Dumas, c'est la manipulation de l'histoire avec la fiction. Pour moi, il y a beaucoup de livres qui sont arrivés après évidemment, mais Les Trois Mousquetaires étaient mon premier amour littéraire. Je le lis avec 8 ans chez mon grand-père, et ça a marqué ma vie comme lecteur et ma vie comme écrivain. Alors, j'ai toujours à Dumas à la tête quand je travaille sur un roman historique, et ce roman se bénéficie aussi de sa dévotion par Dumas. Surtout manipuler, non, raconter des faits réels, mais toujours en introduisant dedans des personnages, des fictions, des situations combinées avec la réalité. Parce que pour moi, la littérature, c'est toujours, ça doit être aussi amusant pour l'écrivain. Moi, je dois m'amuser pour raconter une histoire. Et ça, je l'ai appris à Dumas, évidemment.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que avant d'avoir cette carrière d'écrivain, et en même temps, d'ailleurs, que vous aviez cette carrière d'écrivain qui commençait, Arturo Pérez-Reverté, parce que vous n'êtes pas si âgé que cela, vous avez longtemps été journaliste et grand reporter.
Ouais.
Et ce travail de journalisme et de grand reporter, normalement, doit mettre à l'écart la fiction, l'invention. On peut certes arranger un personnage, on peut certes l'écrire de façon un peu différente de ce qu'il est dans la réalité, mais on ne peut pas tromper son lecteur dans ce travail de grand reporter. Comment vous êtes-vous arrangé pour être l'un grand reporter le plus fiable possible pour les journaux pour lesquels vous travaillez, et de l'autre côté, le romancier qui justement, comme le disait Dumas, on peut tromper l'histoire à condition de faire de beaux enfants?
Oh, j'aurais pu finir comme l'Artegui, par exemple, un journaliste écrivain que maintenant personne ne se souvient, mais pour moi, à mon époque, était un grand best-seller.
Jean l'Artegui.
Jean l'Artegui, oui. Je lis tous quand j'étais jeune. Mais la différence, c'est que moi, quand je suis allé à la guerre, j'avais déjà une bibliothèque à ma tête. Moi, j'avais déjà beaucoup lu, parce que je suis grandi dans une maison avec une grande bibliothèque. Quand je suis allé à Beyrouth, à El Salvador, à Nicaragua, à toutes les guerres que j'ai vécues, j'avais déjà à la tête les livres que j'avais lus. Alors, j'ai toujours eu les livres comme interprétation de la réalité. Et c'est pour ça que quand j'ai fini ma vie comme reporter, quand j'ai décidé de passer ma vie en écrivant des romans, c'est la littérature que j'avais lue qui m'a éloigné du journalisme, de l'actualité, de la guerre, de la narration actuelle. Et je me suis plus penché vers les livres que j'ai aimés. Et j'essayais de réécrire avec la lumière, avec le regard que la vie m'avait laissé, les livres que j'avais lus quand j'étais jeune.
Alors, vous êtes maintenant reconnu largement en Espagne, puisque vous vendez des centaines de milliers d'exemplaires, Arturo Pérez-Reverté, mais vous gardez toujours en tête une certaine exigence, tout en ayant, comme vous le dites très bien dans ce roman qui s'appelle « Deux hommes de bien », cette capacité à vous amuser du sérieux que devrait avoir un auteur d'histoire, par exemple, c'est-à-dire la véracité, et puis de l'autre côté, la liberté que l'on prend par rapport aux faits vrais, parce que les archives, les livres d'histoire ne disent pas tout, Arturo Pérez-Reverté.
Comme romancier, j'ose faire des choses que comme historien, j'aurais pas pu faire jamais. C'est pour ça que c'est plus amusant, de mon point de vue, évidemment, être romancier qu'être historien. Non, mais j'aime beaucoup l'histoire. Ma bibliothèque, maintenant, j'ai chez moi ça doit avoir 32 000 livres, et les trois quarts, ce sont des livres d'histoire. Ma femme est historienne, ma fille est historienne et archéologue, je suis entouré d'histoire partout. Mais pour moi, les romans, c'est une façon de la faire amusante, de la faire plus... Et surtout, je crois qu'il y a deux sortes de romans d'histoire. Et c'est les livres d'histoire qui racontent l'histoire, qui racontent comment c'était les Romains, les croisades, tout ça. Et les livres d'histoire qui essayent de raconter, d'expliquer le présent en utilisant l'histoire comme prétexte, comme argument narratif. Ça, c'est mon cas. J'utilise toujours l'histoire pour faire comprendre l'homme actuel, à la tristesse et des hommes de bien aussi. Hein. Et lui, sur le fanatisme, sur la culture comme sauvetage, comme consolation, l'amitié, la loyauté. Et ça, ce sont des arguments qui je crois, qui peuvent être utiles au lecteur du XXIe siècle.
Alors oui, parce qu'il faut tout de même raconter cette histoire. Vous trouvez donc dans l'Académie royale, à la bibliothèque, un exemplaire de l'édition originale de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Cela vous interroge, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure. Et vous partez à la quête de ceux qui ont pu ramener cette encyclopédie à Madrid, à l'Académie royale, alors qu'elle était condamnée par la papauté et par l'Inquisition. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que vous découvrez des personnages. Et ces personnages sont des personnages réels. Ce qui marque dans votre livre Deux hommes de bien, c'est que vous vous mettez en scène vous-même. Votre quête personnelle qui vous permet d'aller voir les grandes historiennes du XVIIIe siècle qui sont avec vous à l'Académie royale et de leur dire « Mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi cette encyclopédie est-elle arrivée dans la bibliothèque de l'Académie royale ?» Et cet aller-retour permanent est un type d'écriture très original que je ne connaissais pas chez vous auparavant, Arturo Pérez-Reverté.
Oui, c'est une double aventure. Je raconte l'aventure des personnages qui ont venu Paris chercher l'encyclopédie, mais je raconte aussi l'aventure d'enquêteur qui cherche à savoir comment c'est arrivé. Et je raconte aussi comment j'ai fait pour remplir les trous noirs. C'est des choses qui sont impossibles de savoir. Alors c'est la fiction, c'est les romanciers qui interviennent pour aider à l'enquêteur, non ? Et avec les dangers, avec les incidents que j'ai subis comme enquêteur et que mes personnages ont subis comme personnages de fiction, il nous mène à un troisième personnage, un troisième protagoniste du livre, qui c'est le Paris des Lumières. La ville de Paris, dans le vêpre de la Révolution française, quand le Paris des philosophes, des salons, quand déjà commençait à entendre les bruits de la tempête qui était en train de se déclencher. Alors, c'était une aventure formidable, se promener pour ce Paris, non? Lire le livre. C'est pour ça que j'ai pillé les bibliothèques partout, j'ai lu tout Mercier, tout Restif de la Bretonne, tous les écrivains de l'époque. Et bon, c'était pour moi une aventure absolument formidable, parce que personne n'est la même quand on commence, quand elle commence et quand elle finit de lire un livre. Mais aucun romancier, c'est le même quand il commence et quand il finit d'écrire son livre. Et pour moi, ça a été aussi un voyage, un formidable voyage.
Alors, vous posez d'abord une toute simple question. Il y a deux personnages qui sont mandatés par l'Académie royale, dont il faut dire qu'elle est autonome, même si elle est sous l'égide de la royauté espagnole, elle est relativement autonome. On a compris que l'encyclopédie était interdite dans le royaume d'Espagne, mais on pourrait les laisser dans une certaine autonomie en acquérir une, parce que c'est le travail de l'Académie de travailler sur des questions scientifiques. On mandate deux personnages, un bibliothécaire et un auteur obscur d'un dictionnaire et d'un livre autour du langage de la marine. Un amiral qui est à l'Académie royale, et ces deux personnages sont mandatés avec de l'argent pour venir à Paris acheter une encyclopédie. Mais évidemment, entre Madrid et Paris, il y a tout un long chemin à parcourir. Et là, vous allez chercher, Arturo Pérez-Reverté, des guides de voyageurs, des guides pour les voyageurs, qui était une sorte de guide Michelin de l'époque, qui permettait de savoir où il y avait des bonnes auberges, où on pouvait s'arrêter pour dormir, quels étaient les dangers en chemin. Et vous vous dites, je vais à partir de là reconstituer l'itinéraire, dont on ne sait pas grand-chose, de ces deux personnages entre Madrid et Paris.
J'ai pris ma voiture et je suis allé dans les endroits... Bon, ça qui est... parfois n'est pas nécessaire, absolument nécessaire pour les romans, mais c'est nécessaire pour l'écrivain, pour avoir l'état d'esprit, l'état des grâces nécessaires pour pouvoir raconter l'histoire. Et surtout parce qu'il y avait besoin du voyage, parce que c'est une histoire d'amitié et de loyauté. Comment deux personnages, les bibliothécaires, que c'est un homme religieux, éclairé, mais lecteur, mais religieux, avec une foi chrétienne, et l'admiral, que c'est un marin illustré, un marin scientifique, froid, pas croyant, non? Comment les voyages, et les aventures et la culture comme liaison devient dans une amitié, dans une loyauté très forte, non? Même jusqu'à l'héroïsme, non? Alors, la culture comme sauvetage, comme liaison, comme analgésique, comme protection, c'était l'objet de ces dialogues presque cervantines qui jetaient entre
eux. Oui, c'était Sancho Panza et Don Quichotte d'une certaine façon. Et c'est vrai que quand on les suit, ces deux personnages qui sont extrêmement intéressants, l'un s'appelle donc Hermógenes Molina, Don Hermógenes Molina, et l'autre s'appelle Don Pedro Zárate. Mmh. Et ces deux personnages sont des personnages très différents. L'un est sec, l'autre est gros. Ils ont des caractéristiques physiques qui les font complémentaires, un peu comme Laurel et Hardy. Ah, ouais, et ils ont des visions du monde qui ne sont pas exactement les mêmes. Mais justement, ça va vous permettre, dans votre roman, de faire advenir des idées, des situations, en particulier quand ils arrivent à Paris. Et vous nous avez bien dit, Arturo Pérez-Azeverte, que le troisième personnage de ce roman, même s'il y en a beaucoup d'autres, c'est le Paris des Lumières. Et là, vous avez fait aussi un travail de reconstitution, de reconstruction de ces rues de Paris, des endroits où on pouvait aller, des endroits qui étaient dangereux, des endroits où se trouvaient les imprimeurs, là où on pouvait trouver justement des volumes de l'encyclopédie à vendre.
Et les livres philosophiques aussi.
Et bien sûr. Et vous les croisez tous, les salons, les endroits où on peut aussi discuter. Ces deux personnages sont plongés dans un Paris en pleine ébullition, Arturo Pérez-Reverté.
Vous savez, l'avantage de nous, les lecteurs, c'est que nous pouvons arriver à un endroit qui est absolument rasé par le tourisme, qui n'a aucun rapport avec ce qu'on a lu, on a dans la mémoire culturelle. Mais nous sommes là, les privilèges de pouvoir, comme avec un Photoshop, effacer la réalité actuelle et faire la projection de notre lecture sur les endroits. Alors, pour moi, c'était une vraie expérience, un vrai plaisir, promener par les Paris actuels, mais en ne regardant pas que le Paris que j'avais dans mes lectures, que j'avais dans mes notes, dans les livres d'Aristide de la Bretonne, de Mercier, de Laclos, tout ça, non? Alors, marcher dans une rue et savoir que sa rue, elle ne s'appelle pas comme ça, elle s'appelle encore rue des Cordeliers pour moi, non? Et bon, c'était une expérience. Alors, c'est Paris, c'est une ville formidable qui a fasciné à mes deux personnages. Ça m'a fasciné aussi à moi pendant le travail. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé faire des Paris pré-révolutionnaires les vrais protagonistes du roman.
Et on voit que vous vous amusez parce qu'effectivement, les voici qui arrivent chez un imprimeur qui leur dit, vous savez, ça va coûter cher d'acheter une encyclopédie parce qu'il y en a eu 4000 pour le premier tirage, ça coûte très cher, vous n'avez pas trouvé ça facilement, je peux vous obtenir des éditions un peu différentes, mais elles ne sont pas tout à fait fiables, etc. Et eux, ils disent, on est de l'Académie royale d'Espagne, il nous faut une véritable encyclopédie, la première édition. Et évidemment, quand ils arrivent chez cet imprimeur, qu'est-ce qu'il y a posé en caisse? Les ouvrages de Mesmer, celui qui invente la mesmérisation, qui invente ces fluides électriques qui a tant de succès dans la société de l'époque. Ils vont ensuite au Palais Royal, qui est en pleine construction, où il y a effectivement toute la bonne société qui vient s'amuser avec des prostituées, avec dans les cafés, etc. Ils s'amusent, mais ils s'amusent aussi dans un Paris pré-révolutionnaire qui est très marqué, par exemple, et ça va vous aider, comme ça pouvait aider un Alexandre Dumas, très marqué par la franc-maçonnerie. Ça va d'ailleurs être une des clés de compréhension de ce qui va se passer. La franc-maçonnerie, écossaise, anglaise, arrivée en France, participant des Lumières, tout cela c'est utile parce que c'est aussi le secret. Et le secret pour un romancier de roman d'histoire, c'est un levier formidable, Arturo Pérez-Reverté.
Absolument. Il y a une chose que j'ai découvert quand j'ai travaillé, une chose que j'ai appris, une grande leçon que j'ai appris, que c'est applicable à des autres révolutions. Quand j'ai travaillé dans ces romans, j'ai compris que la vraie révolution n'est pas Voltaire, D'Alembert, Diderot qui l'a fait. L'ont fait les secondaires, l'ont fait les frustrer, l'a fait la rancune des gens qui n'avaient pas une place à la table des marquises et dans les salons, qui avaient les rancunes sociales, et quand a éclaté la révolution, ils sont pris la tête du mouvement pour régler des comptes, non? Alors, des personnages comme ça, non? Ce sont qui ont fait les Jacobins, qui ont fait vraiment la terreur, non? Et j'ai compris ça pendant que j'ai travaillé dans ces romans.
Oui, puis alors, vous avez des personnages, un personnage qui a existé, l'abbé Bringas, ouais, qui était un personnage incroyable que vous faites ressurgir. Bon, les spécialistes de la Révolution française le connaissent, l'abbé Bringas, parce qu'il a
Bringas, c'est l'abbé Marchena, que j'ai changé le nom pour pouvoir avoir un peu de liberté, voilà. Mais oui, c'est l'abbé Marchena.
Et donc, cet abbé en question, il est connu des historiens sous sa véritable identité, mais vous en faites effectivement un personnage frustré, un personnage qui n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut, qui est obligé de vivre avec des petits moyens dans un Paris qui est pourtant extrêmement tentant, et qui va être aussi un de ceux qui vont à la fois tenter de résoudre et compliquer cette affaire d'achat de l'encyclopédie à Paris.
Ouais. Et parce qu'à part ça, il y a à l'académie, il y a des sortes académiciens qui sont réactionnaires. Bon, il y a une combinaine entre l'extrême droite et l'extrême gauche à l'académie qui veulent éviter que l'encyclopédie arrive à Madrid.
Alors les uns parce que cette encyclopédie est diabolique, ouais. Les autres parce que ils voudraient bien, parce qu'ils pourraient ainsi en tirer la gloire, traduire les principaux articles de l'encyclopédie, se les attribuer et ainsi devenir les introducteurs de cet esprit des Lumières dans l'Espagne de l'Inquisition.
Alors ils s'envoient un sicaire, un sbire, comment
tu dis, un sicaire.
Pour empêcher l'arrivée de la... Alors ça donne place à situation romanesque, non, à des incidents. Il y a même un duel dans les jardins de l'extérieur de Paris. Et les salons aussi, non. Et il y a Madame Danceny, qui c'est une femme qui est aussi inspirée dans Teresa Gavarrus, c'est dans les femmes illustrées, les femmes éclairées qui avaient des salons à Paris. Et dans ces salons, les deux académiciens espagnols, ils connaissent avec admiration des noms qu'ils ont lus dans les livres d'Alembert et
Diderot,
Franklin. Alors pour ces deux gens, on devient, non, avec son innocence, avec son patriotisme culturel, non, arrivé à Paris, que c'est la ville référence de la culture et du futur et du progrès, non, et promener dans les rues de sa ville,
rêver,
s'y admirer, oui, c'est vrai, c'est une aventure aussi formidable, non. C'est la même admiration que moi-même, je sens, parce que pour moi, je suis sûr que maintenant qu'on parle toujours de l'Europe, la France, tout ça, la France et l'Europe, chaque fois que quand j'étais petit, on parlait de l'Europe, on parlait toujours de la France. Mon grand-père me disait, Arturo, tu dois apprendre français. Et j'ai essayé, vous voyez, mais bon, je me débrouille. Tu dois apprendre français, mon petit, parce que chaque 2-3 générations d'Espagnols, il y a une génération qui doit s'exiler. Alors c'est très triste d'aller à l'exil sans parler la langue. Et pour nous, la France, c'est l'endroit naturel pour nous exiler. Alors, pour moi, c'était toujours ça, non? Alors, j'ai donné sa admiration, non, pour la vraie France, non, la France respectable, la France de culture et des idées. J'ai donné sa admiration à mes personnages.
Oui, et ces personnages-là, effectivement, disent aussi autre chose, et vous le montrez bien. On voit chez vous, comme on a pu voir chez d'autres romanciers, par exemple chez des très grands romanciers étrangers, il y a cette volonté de se dire, il y a eu au XVIIIe siècle une religion qui était une religion qui s'était imposée depuis très longtemps et qui empêchait les idées de naître. Et évidemment, ces deux personnages qui sont en quête d'une encyclopédie qui fait ouvrir les fenêtres et les portes, ce sont des personnages qui disent quelque chose aussi de la situation contemporaine, Arturo Pérez Reverté.
Oui, et justement parce que les fanatismes, ils ont changé. En Espagne, le problème est que pendant qu'en France, l'Église était puissante, mais n'était pas toute puissante. En Espagne, au XVIIIe siècle, l'Église était toute puissante. Elle avait un pouvoir politique qui empêchait les Lumières se développer. Mais ça, heureusement, est révolu. Mais aujourd'hui, il y a aussi les fanatismes, mais pas seulement, je parle pas seulement de l'islam, du jihadisme, tout ça. Il y a aussi des fanatismes antérieurs, des fanatismes politiquement corrects, des en position de l'humanitarisme extrême, ça devient parfois si fanatique que la religion, non? Alors, justement, je crois que dans ce moment des fanatismes, divers fanatismes, une histoire comme ça, une histoire de la culture comme de le dialogue, de la raison, par-dessus de tout, non? De la loyauté décidée, et je crois que c'est un bon moment pour, je croyais que c'était un bon moment pour raconter cette histoire.
Et vous avez eu des réactions positives ou négatives de vos collègues de l'Académie royale d'Espagne?
La plupart, ils connaissaient pas l'histoire de l'encyclopédie. Même, il y a plus sûr que comme moi, ils connaissaient pas l'existence d'une encyclopédie dans notre bibliothèque. Ils ont beaucoup aimé, ils sont fiers du livre. Et il y a quelques qui sont utilisés comme personnages, ils sont plus fiers encore. Ouais, non, et ça a été très bien reçu, hein, pour mes collègues à l'Académie, oui.
Voilà, merci Arturo Pérez-Reverte pour cet entretien que vous nous avez accordé. Donc, à propos de votre livre « Deux zones de bien » qui vient de sortir aux éditions du Seuil. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Pierre Faucillon avait réalisé l'entretien, avait en particulier enregistré l'entretien avec Arturo Pérez-Reverte, qui a été réalisé par Anne Fleury. Yanis Djouda nous a accompagnés à la technique aujourd'hui et Véronique Samouilov à la réalisation. Vous le savez, l'histoire continue sur France Culture pendant le week-end et en particulier le samedi grâce à l'émission Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonnet. Demain, l'invité de Jean-Noël Jeannonnet sera Olivier Christin et le thème de leur entretien sera le tirage au sort est-il démocratique. Et puis puisque nous avions reçu en début d'émission Patrick Boucheron, et bien sachez que le 24 juin il sera également l'invité de Concordance des temps pour un thème 1984, la littérature prophétique.